Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi, les 18h. On est très heureux d'être avec vous pour parler. Bon, on a plein de choses au programme. On va parler d'une aventure un peu exceptionnelle qu'on a traversée cette semaine. On est rentré dans une zone où personne n'a mis les pieds jusqu'alors. Enfin voilà, on a eu cette chance. On va vous en reparler dans un instant. On va parler de la sortie d'un jeu vidéo adapté au cinéma qui est très attendu. Et puis, on va pénétrer dans les coulisses du doublage avec notre invité qui sera avec nous dans quelques instants en deuxième partie, Antoine Noël, qui sera avec nous. On va parler de ce qui se passe sur les plateaux de doublage, comment on dirige les comédiennes et les comédiens, comment on choisit la bonne voix. Et puis, soi-même, est-ce qu'on a besoin pour être directeur de plateau d'être comédien? Est-ce qu'on s'y prête à cet exercice facilement? La voix, etc. On a plein de questions à lui poser. Il sera avec nous dans un instant. Je vous présente évidemment notre équipe, une partie de l'équipe qui est avec nous. Lola est prise en plein salon du livre, il faut le dire. Au moment où on enregistre cette émission, elle ne peut pas être avec nous. Mais évidemment que Arnaud Magnier, le magnifique, est avec
Oh là
nous.
là, bon, bah bon, bonsoir, bonsoir tout le monde.
Ça va, mon Arnaud?
Très bon lancement.
Pour manier l'épée.
Pour manier l'épée, voilà, il est là, il est tellement magnétique, voilà qu'on s'en les a tous faits. Et puis accompagné de Rui Pasquale qui est avec nous et qui, encore une fois, nous permet de rencontrer ces grandes personnalités du doublage. On mentionnera tout à l'heure l'actualité, notamment Génération Mercredi, parce que on est mercredi, c'est le club et c'est nos programmes qu'on mentionne très souvent dans cette émission.
C'est souvent, il y a eu pas mal de sujets sur les dessins animés des
Mais grave, grave.
Ils sont concentrés un peu plus sur les émissions jeunesse.
Il y a beaucoup de dessins animés quand même, hein. C'est tous les dessins animés.
Oui,
il y a 125 dessins animés quand même.
Mais plus l'accent quand même sur les animateurs, ils ont un petit peu varié l'angle, quoi.
C'est leur moon, enfin bref, tout est là-dedans, vous allez vous le procurer. C'est disponible en kiosque. Et puis nous avons autour de la table quelqu'un qui a pénétré dans la même zone que nous cette semaine. On était plusieurs journalistes à avoir la chance de participer à Zone 51, le nouveau jeu
Oula,
interactif.
C'est une zone interdite, hein.
C'est une zone interdite et tu vas voir pourquoi dans un instant avec Inès qui est avec nous. Bonjour Inès. Ça va?
Ça va.
On est très heureux de t'accueillir. Tu fais partie du magazine Decide, c'est ça? Avec Johan qui était avec toi le jour J. Et tu vas nous dire dans un instant ce que tu as pensé de cette expérience. Tu peux aussi réagir sur ce qu'on va voir dans l'émission. Decide, c'est quoi comme magazine en deux mots pour le connaître un peu?
On est axé sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Et on fait un contenu culturel, mode, musique, cinéma principalement.
Et tout se passe bien.
Et tout se passe
heureux.
Bien.
Vous êtes heureux.
Ouais,
bon.
Ça fait un an, on est content.
Eh ben écoute, c'est le principal, de s'éclater et de donner vie à des nouveaux médias, c'est toujours hyper intéressant. Vous êtes jeux vidéo? Oui, bah toi, oui.
Oui, moi j'aime beaucoup ça, bien sûr.
Toi, un petit peu?
Oui, j'ai saigné des consoles jusqu'à l'overdose, hein, et puis après j'ai plus joué pendant des années, mais oui.
Et toi, Inès?
Non.
T'es pas de... Ouais, moi non plus.
Ah. Je suis l'entrée. Ah non, ok.
Non, ça. Non, en fait, je m'énerve au bout de 10 minutes si j'ai pas réussi à franchir l'étape. Donc, vous avez vu ça. Hein,
oui, on a vu un petit peu.
Vous avez vu ça dans le jeu mercredi soir. Il y a un film qui est très attendu qui va sortir au mois d'octobre prochain. L'adaptation d'un jeu vidéo. Il y avait déjà eu une première adaptation dans les années 90 avec Jean-Claude Van Damme, où il était dans le rôle principal. Et puis là, c'est une nouvelle distribution, nouvel état d'esprit pour Street Fighter, le jeu culte qui sort en film. Et voici la première bande-annonce qui a été dévoilée cette semaine. Regardez.
J'ai une grande nouvelle, les gars. Ici sont réunis les meilleurs combattants du monde. I won't deny, I'm a Street Fighter.
T'es plus un combattant, t'es une bête de foire.
La Roll MTV, c'est Ken Master.
C'était ta chance de te racheter.
Ryu sera là.
Le chemin que j'ai pris est sans retour possible.
C'est peut-être au tour de Ken d'être champion.
Comment tu m'as retrouvé?
Je suis payé pour trouver des champions. Même quand ils se sont perdus.
Content de te revoir, vieux frère. Toujours kamikaze. Assieds-toi. Ce tournoi n'est pas comme les autres. On doit être prêt.
Ah,
baver devant tes cuisses. Je vois vraiment pas pourquoi. Voilà pourquoi.
Comme tour de magie. Oh, what's going on?
Je vous garantis qu'une boule de feu est sortie de Ryu. Vas-y, Ryu! Attends!
Bah voilà.
Wow, on a vu tout le film en fait.
Mais c'est le vrai film ou une parodie?
C'est un peu à cheval entre les deux. C'est ça qui est assez dingue. On sent qu'ils ont voulu aller reprendre un peu ce qui a été fait il y a pas longtemps avec Mortal Kombat aussi. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Ça sortira, je crois, au mois d'octobre prochain.
J'irai le voir. Ouais. C'est la question. Pas certaine, mais après, en vrai, pourquoi pas? Je suis ouverte à tout.
Un petit Street Fight et tout.
Why not?
Ouais, on y va. On est parti pour la baston. Donc, on va vous proposer d'autres bastons maintenant. C'est ce qu'on a pu découvrir cette semaine à Paris, près de la gare de l'Est, Strasbourg-Saint-Denis, très exactement. Nous avions rendez-vous en fin d'après-midi pour découvrir une nouvelle activité comme il en existe beaucoup dans Paris, une room story. C'est comme ça qu'il faut les appeler. C'est pas un escape game, il faut pas s'évader, mais c'est une room story. C'est une grande histoire que l'on va vivre pendant 2 heures. Dans Paris, et puis voilà un petit extrait de quoi, c'est à quoi ça ressemble, parce que oui, il y a un petit teaser qui avait été fait, regardez. Et voilà, ça s'appelle Live Cinema. Le film s'appelait Zone 51. Et l'idée, c'est grosso modo, il faut trouver un moyen d'atterrir dans la Zone 51 en infiltrant l'ambassade américaine des États-Unis, puis intégrer un porte-container pour atterrir en Zone 51 et là, essayer de retrouver un mystérieux objet qui est à l'intérieur, dont on ne vous dira pas, évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur. On ne le dit pas, on fait équipe. Alors,
ça se mérite.
Ça se mérite, évidemment, voilà. Évidemment ça se mérite. Attends. Alors, chose que vous ne vivrez pas, que nous, on a vécu, c'est comme ça que Inès est avec nous aujourd'hui, c'est que vous faites ça en équipe avec vos amis. Moi, je pensais qu'il pouvait y avoir des mélanges. En fait, il n'y a pas de mélange possible. Oh. C'est fait vraiment avec des équipes de 3 minimum à 6 joueurs maximum pour pouvoir intégrer le jeu et vous vivez l'aventure ensemble à force de séances. Et ça dure 2 heures. Hein. 2 heures.
Et apparemment, vous êtes sorti presque entier. Là.
Presque entier, hein, Inès.
Presque.
Presque, je crois.
Presque.
Une petite bosse en plus, peut-être.
Une petite bosse en plus, ouais, c'est ça. Comment vous l'avez vécu tous les deux, cette aventure?
Je commence. Alors, ouais. J'ai trouvé ça au départ assez oppressant parce qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Et puis, il y a une atmosphère à la fois douce et réconfortante, mais on sait bien qu'il y a des trucs derrière. Et puis, d'un seul coup, on est pris dedans et on n'a pas le temps de réfléchir et on perd vite nos repères. Mmh. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné.
C'est l'entrée de la salle de cinéma.
C'est-à-dire que voilà, on rentre dans voir un film, il n'y a que 6 places, donc 6 sièges, on s'assoit et le film commence et on est pris dans le film en fait. Et voilà. Et on est très vite, on perd nos repères très rapidement.
Ça s'enchaîne beaucoup.
Tu sais plus si tu as monté un étage ou si tu es monté ou si tu es descendu et dans quelle pièce tu te retrouves et on a l'impression que tout est. Basculer le temps qu'on prenne un ascenseur ou autre, c'est extrêmement
bien. Comme dans
fait.
Le film Cube,
oui.
Qui date d'il y a quelques années, où tu as l'impression bien, en fait, que la maison bouge et que tout bouge.
C'est ça.
Donc on rentre dans cette salle de cinéma, je crois qu'on a d'autres décors qui vont apparaître. Voilà, on atterrit dans ce QG-là, effectivement, où là notre binôme qui était avec nous d'ailleurs,
qu'on salue,
qui est un super comédien qui s'y prête et qui donne beaucoup de sa personne, et qui nous explique un peu toutes les règles du jeu. C'est là où on sait que. Grosso modo, on va en chier pendant 2 heures.
Ouais, c'est recommandé aux gens cardiaques, alors.
Totalement. Cardiaque et enceinte.
Épileptique.
Tu as une annonce au départ qui te dit, attention, si vous êtes épileptique, cardiaque...
On te le dit, t'es déjà dans la salle de cinéma. T'es temps de le dire.
Non, c'est très basé sur des jeux vidéo aussi, comme Watch Dogs, pour ceux qui connaissent, où on doit infiltrer comme ça par le biais d'informatique. Et il y a une intelligence artificielle qu'on voit juste derrière le bras de la personne qui s'appelle Ted et qui nous aide aussi. C'est extrêmement bien fichu. On y croit directement, ça fait pas toc. Ça fait pas jouer. Et puis, ah, tu l'as sur toi.
Je l'ai, le petit Ted. Alors, on le voit pas bien, mais je l'ai, le petit Ted en porte-clés qu'on nous a offert à la fin gentiment. Voilà.
Ouais. Il est là, j'entrais dans la spiral zone.
Ouais, mais alors, c'est encore pire que ça. Vous allez voir un décor derrière qui arrive, je crois, qui est le plus. Je trouve que c'est un des plus impressionnants.
Ouais, ouais.
C'est une station de métro désaffectée. Et alors là, t'as eu à faire quoi, toi, dans cette pièce, toi?
Nous, avec Johan, on avait des petits fils électriques qu'il fallait relier et trouver un peu des
ou
choses.
Le courant passait.
Sans spoiler, ouais, ou le courant passait. Et avec les bruits, tu savais si le courant passait ou pas.
Bébé, bébé.
Voilà.
Bah,
exactement.
Ça, ouais. Et on était sous l'ascenseur avec Arnaud.
Ouais, l'ascenseur, on devait le bloquer. On était en dessous à faire plein de manipulations.
Et puis il y avait d'autres binômes, ils devaient rentrer dans des canalisations et mettre une bombe à l'intérieur. T'as trouvé ça comment, toi?
Moi, j'ai trouvé ça trop bien. Juste ne mettez pas de chaussures que vous avez peur d'abîmer, puisque c'est ça l'abîme vos chaussures.
Mais, comme des talons, par exemple?
Par exemple. mais non, c'était chouette. Et puis j'ai trouvé que le temps était passé vite, en vrai. Parce que moi, quand on m'a dit 2 heures au début, je me suis dit, ça va peut-être être un peu long. Mmh. Et finalement, j'ai trouvé que le temps est passé très rapidement. C'était très bien fait. Et puis l'espace est super grand. Je crois qu'on nous avait dit 500 mètres.
750 mètres okay. Et 500 mètres de décor. C'est ça.
Ouais. Ouais. Bah, non, c'est énorme. Ouais. Et je trouve, on est vraiment dans l'immersion. Ouais, dans Paris en plus.
En plus, ouais.
On est vraiment dans l'immersion et c'était très très cool.
Ah non, mais c'est impressionnant. Ça, c'est le décor quand on est dans le porte-container. Et là, effectivement, tout est fait effectivement pour que, à la fois, il y ait du rythme dans l'action et en même temps pour que les gens stagnent dans des endroits, comme ça existe beaucoup, pour faciliter le trajet aux autres qui sont après et qui n'ont pas fini, ou ceux qui sont avant et qui vont arriver. Et là, on est dans le porte-container, on nous raconte un peu plus l'expérience. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, sans rien spoiler du tout, évidemment, quand on finit l'expérience, on atterrit dans une petite salle où on est débriefé un petit peu. Et là, on nous présente des petites maquettes et on comprend comment tout est fait. Mmh. Et on se rend compte à quel point tous les décors sont mouvants. Pendant qu'on est là-dedans, en fait, on nous explique qu'il y a des passerelles, enfin des portes, des murs qui bougent, qui pivotent, qui changent, pour nous donner accès à des parties du décor qu'on n'avait pas vues au départ. Et c'est assez génial. Ils font en sorte de faire intervenir tout le monde. Ouais. C'est vrai que tout le monde a eu quelque chose, à faire.
Un rôle, ouais, c'est bien.
Vous avez une salle préférée ? Vous avez une salle que vous avez préférée, tous les deux ?
En vrai, je pense que j'ai bien aimé la salle où on a des grosses caisses et il fallait monter, descendre.
On a un peu galéré quand même.
Mais justement, j'ai trouvé ça amusant de tout retourner, de pouvoir monter, passer en dessous et tout.
On avait réussi tous les deux, tu sais, avec le câble là.
On a fait équipe.
Moi, je suis resté enfermé dans la pièce parce qu'en fait, il y a une pièce. C'est un peu des épreuves à la Fort Boyard, c'est-à-dire qu'il faut découvrir des jauges d'énergie et puis certaines, il faut les débloquer avec des énigmes. Et en fait, il y en avait une, elle était libérée déjà. Je me suis dit, c'est bien, c'est génial. Sauf que quand tu la libères, elle verrouille la porte d'entrée. Et donc, il faut être en travail en groupe pendant qu'il y en a un qui tient la porte pour que tu puisses sortir, etc. Et après, j'ai découvert comment ça se passait sur d'autres. Il faut vraiment travailler, faire des chaînes humaines pour arriver à déloquer parce qu'il n'y a que 10 secondes pour atterrir sur des trucs. Ouais. Enfin bref, on s'est vraiment éclaté. On recommande à tous ceux qui ont des super potes avec qui...
Il y a une bienveillance aussi qui règne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre, on ne peut pas échouer. On est obligé de communiquer, donc du coup, ça resserre les liens tout de suite. On se sent vraiment investi et responsable de l'autre, quoi. Et que l'on résolve 10 énigmes ou 2, on passe à l'étape suivante, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même très important de le souligner, parce qu'il n'y a pas cette sensation de rater ou de prendre la culpabilité pour toute l'équipe d'avoir raté un truc.
Moi, je regrette presque quand nous donne pas la possibilité, si on veut, d'être mélangé comme nous on l'a vécu, parce que ça nous permet de rencontrer des gens qui sont à peu près sympas, enfin voilà.
Quand on n'essaye pas de les assommer.
Je suis désolé, franchement, je le dis publiquement devant tout le monde, cette phrase va être très bizarre, nous étions coincés tous les 6 sous une bâche, et en rentrant sous la bâche, je l'ai bâché.
Il y a une manchette.
Je m'excuse publiquement devant la France entière.
J'accepte.
Inès, je m'excuse, c'est pour ça qu'on a eu envie aussi qu'il soit là aujourd'hui, parce que
c'est
un super moment. Hein ?
Juste parce que tu m'as frappé.
Juste parce qu'on t'a frappé. Ouais. Non, mais parce qu'on a passé un super moment, et c'est vrai que c'était l'occasion de vous redécouvrir et de vous faire venir ici et de te permettre de nous donner un petit peu ton sentiment sur cette aventure-là.
Je veux juste souligner aussi le travail des comédiens.
Ouais,
qui est exceptionnel, ils jouent super bien, nous, en tout cas la personne qui nous accompagnait, et puis surtout ils ne rigolent pas, alors qu'on n'était vraiment pas l'équipe la plus sérieuse, je pense.
On a essayé de le faire craquer un peu, mais
on n'était pas l'équipe la plus sérieuse du monde, c'est pas vrai.
On a dit qu'on était la meilleure équipe, de toute façon.
Ouais.
Voilà. Je pense que c'est vrai.
Et c'est vrai qu'on était la meilleure équipe.
Ça à personne.
D'ailleurs, c'est toi qui es là, d'ailleurs,
avec
Johan, qui est là aussi, et qui surveille, qui regarde
bien. C'est très bien. Le décor le plus magistral, c'est quand même la station de métro.
Ah ouais, j'adore.
Ça ne fait pas décor, ça ne fait pas
non, ça ne fait pas du tout.
On y croit vraiment avec. Voilà,
moi, je suis rentré là, j'avais envie d'y rester tellement il se passait.
Non, c'est
beau.
Et certains ont même essayé de rentrer avec les talons à l'intérieur, mais ça ne marche pas.
Si ça marche, j'en suis sorti.
Oui.
Mais je décommande.
C'est pas faute d'avoir essayé.
Non. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'à la fin, on retourne, je sais pas si je peux le dire ou
non.
Non. Ok, bah, je dis rien. Mais on voit comment c'est fait, en tout cas.
On voit comment c'est
fait. Ah non, c'est un super twist à la fin. Et même qui nous a surpris, enfin, on s'y attendait pas du tout.
C'est pas mal ça, faut pas spoiler, ça fait un bon titre.
Ah non, faut pas, non, non, c'est...
Je spoil rien, juste je trouve ça bien que dans un escape game, on voit aussi les solutions et l'envers du décor, la façon dont c'est fait.
Non, c'est absolument fantastique. Ça s'appelle donc Live Cinéma, c'est à Paris, pendant plusieurs semaines. Allez-y, faites-vous plaisir, allez découvrir cet espace, ça va vraiment vous plaire. On va switcher dans un instant avec notre invité de la deuxième partie, Antoine Noël, qui est avec nous, comédien, directeur de plateau. Évidemment, Inès, on te retrouvera en fin d'émission. Reste avec nous du côté des coulisses, mais on est ravis que tu sois passé nous voir dans ce studio.
Bah, moi aussi, merci
pour faire la transition, on va accueillir la séquence du téléspectateur, comme on le fait régulièrement dans cette émission. Allez redécouvrir une archive, un générique pour accueillir notre deuxième invité. Je vous solliciterai pour nous en parler juste derrière. C'est un programme culte de la télévision, mais ça peut faire flipper les enfants quand ils étaient petits. Voilà, programme culte, regardez. Merci, à tout à l'heure, Inès.
Merci.
Et on va accueillir Antoine Noël tout de suite.
Surtout les amis de Chico.
Les minutes de Michel et Bob, c'est le meilleur antidote pour soigner la tristesse. C'est un jour comme les autres chez les Bob. La porte chante et le fauteuil tricote. Les Bob.
Les bottes, je m'en souviens plus.
La vie des bottes. Un programme de Jean Chalopin, si je ne me trompe pas.
Absolument.
C'est on ça. Est d'accord, les garçons?
Oui, et il y a des choses à dire là-dessus. Hein.
Ouais, on y reviendra une autre fois, mais c'est vrai que Jean Chalopin, parce que c'est un grand monsieur de la télévision. Mais, alors, je crois que c'est la famille Valois qui est derrière en termes de chansons.
Alors, il y a Claude Valois qui interprète le générique, qui est le chanteur de Côte Ouest ou de Samouraï Pizza Cats ou Digimon, par exemple. Mais surtout, il y a dans les personnages... C'est ça qui est marrant, c'est qu'on entend des voix de comédiens qu'on connaît, comme Mathias Kostowski pour Le Garçon. Mais à l'intérieur de ces personnages, en fait, il y a une comédienne. Et l'une d'entre elles, on la connaît très bien, elle s'appelle Brigitte Lecordier. Ah. Et elle avait la voix de Mathias Kostowski par-dessus. Vous me suivez toujours.
Ah, oui.
Donc c'est ça, et il y avait des gens comme Evelyne Grandjean, etc. Et c'était un ovni télévisuel.
Marino Chevalier, Mademoiselle Futet de L'île aux Enfants qui faisait la grand-mère. Ouais. Jean Mitterrand aussi.
Exactement. Ouais. Et pour les costumes, si je ne dis pas de bêtises, il y avait la SFP, tout ça à l'époque. Je crois que c'est tu me corriges si je me trompe, c'est les mêmes studios, par exemple Christophe Izard, ils avaient tous pioché là-dedans. Donc la vraie question, c'est de savoir ce que sont devenus les costumes. Est-ce qu'ils sont en vente sur eBay?
Ah, il faut regarder. Je pense que oui, c'est possible. C'est possible. Et on transitionne avec notre invité qui nous a rejoint, puisqu'on parlait de voix, de doublage, Antoine Noël qui était avec nous. Bonjour d'abord, merci.
Bonjour, merci.
On est très heureux de vous accueillir, parce que je sais que vous êtes plutôt rare dans l'exercice de l'interview et de la confidence. Ah, oui. On avait surtout envie au-delà de revenir sur votre parcours, vous avez une voxographie, comme on dit, qui est assez considérable, mais on avait envie de s'intéresser aussi à ce qui se passe sur un plateau. Parce que c'est vrai que c'est un métier qu'on connaît mal, et on a envie de mettre à bas peut-être les idées qu'on peut avoir sur certains, sur ce métier, ça va être important. Mais avant de commencer, je voudrais vous montrer une photo,
ouais.
Et vous me dites si ça vous parle.
D'accord, allons-y.
Regarde.
Je me méfie.
Alors non, ça c'est avant, non. Juste avant.
Ouais, ça je connais.
Ah, juste avant, juste avant normalement.
Ça, c'est chez qui ?
Ou c'est peut-être une vidéo, je ne sais plus. Non, c'est une vidéo, c'est ce qu'on me dit. Eh bien, c'est un extrait, c'est encore mieux.
C'est de luxe, on dirait de luxe. Hein.
Mais avez-vous bien dit d'ailleurs la vérité ?
Oui, oui, je l'aimerais même.
Le mot vous gêne devant moi ?
Mais...
Il ne me fera pas de peine. M'aime-les.
M'aime-les. Tiens, on a tiré.
Affreux.
Affreux.
Défiguré.
Défiguré.
Grotesque.
Rien ne peut me le rendre grotesque.
Vous l'aimeriez encore?
Et davantage, presque.
Mon Dieu, c'est vrai, peut-être. Quel bonheur est là.
Je...
Ah, Cyrano de Bergerac avec l'immense Jean-Paul Belmondo et vous fûtes Christian. Ouais. Ah, je ne pensais pas que ça provoquerait cette émotion-là de revoir ces images-là, cher Antoine. Je suis vraiment désolé parce que c'était mentionné ce grand monsieur de.
Ah, mais on peut pas. C'est incontournable.
C'est incontournable dans votre carrière. Ça a été un passage obligé de le mentionner. Alors, je suis vraiment désolé. Je ne l'imaginais pas. Je ne l'imaginais pas et ça me bouleverse de vous voir dans cet état-là. Bon, comment on transitionne ? On va vous laisser prendre vos esprits.
Non, c'est parti. Ah. Non, bah moi non plus. J'aime pas trop être cueilli comme ça.
Ah.
Voilà. Non, mais c'est pas négatif hein, ce que je dis.
Non, j'imagine.
Non, ça a été... Ça a été...
Incroyable d'être sur scène avec lui et de jouer Christian, c'est... On en a beaucoup reparlé puisque Alexis Michalik l'a refait. Enfin, il y a eu beaucoup de versions qui ont beaucoup marché. Mais il a imprégné de ce rôle-là. Je crois que c'est à peu près au même moment, peut-être un peu avant, qu'il a joué Keane aussi.
Il a joué Keane juste avant. C'était la reprise avec Robert Hossein.
Ouais.
C'est sa première pièce. Quand son père lui a dit il serait peut-être temps que tu fasses ton vrai métier. Donc c'était comédien et non pas acteur. C'est toute la différence dont je parlais tout à l'heure avec Rui. J'ai toujours mis trois catégories dans ce métier, qui sont trois catégories distinctes. Il y a les comédiens, il y a les acteurs, il y a les synchronisateurs, et pour pas les vexer, je les appelle des artistes vocaux. Mais c'est pas parce qu'on fait du doublage qu'on est comédien. Moi, j'ai toujours mis une vraie barrière à cette définition. Un comédien, c'est quelqu'un qui fait de la scène. Un acteur, c'est quelqu'un qui fait du théâtre, qui fait du cinéma ou de la télé. Et un synchronisateur, c'est quelqu'un qui fait du doublage, il n'y a rien de péjoratif. Une Porsche, ce n'est pas une Ferrari. Une Ferrari, ce n'est pas une Formule 1. Une Formule 1, ce n'est pas une Aston Martin. Peu importe. On est quand même en Porsche en doublage. C'est quand même pas trop mal. Il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. J'adore j'en parlais toujours encore avec Rui tout à l'heure. Il y a une comédienne qui joue. Je ne sais plus son nom, mais que j'admire beaucoup en tant que comédienne, qui joue dans Capitaine Marlowe. Et qui
Corinne Maciron.
Pardon ?
Corinne Maciron.
Ouais. Oui, c'est ça,
l'héroïne.
Ouais. Et elle disait, elle parlait, alors j'espère que je ne me trompe pas, j'espère que ça vient d'elle. Un jour, on parlait du doublage et elle disait, ah oui, le doublage, là, c'est la plus grande trahison artistique du XXe siècle. Parce que j'estime que c'est exactement ça. Je trouve que le doublage est une énorme trahison artistique, dans le sens, mais c'est toujours, il n'y a rien de méchant, moi, c'est que du factuel. Hein. J'ai toujours été un petit peu dur parce que le doublage, c'est faire en une minute ce que des gens ont mis des mois à faire. On peut pas dire que... Il y a une définition sur l'art qui est très belle, qui est l'art, c'est mettre de l'émotion sur une technique. Voilà. Or, le doublage, c'est 90% de technique pour 10% d'émotion. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas un domaine artistique extrêmement poussé artistiquement parlant. Maintenant, techniquement parlant, c'est invraisemblable. Ça reste...
On pourrait aussi dire vous répondre que, justement, si on arrive à faire aussi bien parfois, et il y a de très très grands acteurs qui le font en aussi peu de temps, c'est peut-être que, justement, ces comédiens à qui on fait appel sont de très bons comédiens.
Parce que ce sont de comédiens.
Oui.
Emmanuel Curti l'a très bien dit au César, pour doubler de grands acteurs, il faut...
De grands comédiens.
De grands comédiens. Mmh. Voilà. Et non pas de grands synchronisateurs. C'est toute la différence. Comédien, c'est un métier. Normalement, c'est un métier. On ne devrait pas pouvoir faire du doublage si on n'est pas comédien ou si on n'est pas acteur. C'est la moindre des choses. C'est pas parce qu'on a son permis de conduire qu'on peut conduire une Formule 1.
Ah, parce que maintenant, il y a des jardiniers, des youtubeurs.
Mais il y a tout, mais attends.
Mais même depuis plusieurs années.
Et encore, c'est presque méchant, péjoratif, je ne dis pas trop ça. C'est pas parce qu'on a le don de parole qu'on peut lire une bande rythmo. C'est quoi le métier de comédien ? C'est quoi ? En un mot, c'est quoi ? C'est faire avec le texte d'un autre, qui n'est pas le sien, le texte d'un auteur, faire croire que c'est votre texte. Voilà, c'est tout. Cette simplicité est tellement invraisemblable, c'est ce que disait Guitry. Il faut 10 ans pour commencer à être pas trop mauvais. Donc voilà, les comédiens en France, alors je parle pas de ceux de la comédie française, qui sont tous, sincèrement, qui sont à un niveau extrêmement élevé, normal, c'est normal, ils ont ça dans le sang. Les types, ils lisent un livre par jour, ils apprennent une pièce par jour. Donc, le niveau de culture est invraisemblable.
Mais ça veut dire que pour être un bon comédien dans le doublage, il faut passer par cette école dont on a, avec laquelle on a commencé cette partie, c'est-à-dire se former au théâtre, se former dans ces grandes
Les pilotes de Formule 1, ils passent par où? Vous croyez qu'ils vont directement en Formule 1?
Parce qu'on parle souvent du cours.
Ils commencent par le kart. Ils commencent par le kart. Enfin, moi, mes références, c'est le kart. Voilà, ils passent par le kart, la Formule 2, la Formule 3, et puis, ou la Formule 3, la Formule 2, la Formule 1. Oui. Je ne connais pas le critère. C'est comme un tennisman. Il passe par où? Il passe par une école. Pourquoi nous, on ne passerait pas par une école? Alors, le but, c'est pas... Alors, moi, je suis anti-Florent, évidemment, parce que la plupart des gens qui enseignent sont ceux qui ne font pas. Et moi, je préfère que, généralement, j'ai jamais vu Depardieu enseigner, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je préfère prendre des cours avec Depardieu qu'avec Petao Schnock, mon cul sur la commode. Évidemment, je préfère avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle qu'un type qui n'a jamais exercé ou qu'une femme qui n'a jamais exercé et qui va me donner des conseils sur quelque chose qu'elle ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas.
Parmi les grands noms du doublage qu'on a beaucoup évoqué dans cette émission depuis 5 ans, notamment avec lui, on pense évidemment à Dominique Paturel,
on pense à tous ces gens-là.
Non, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils arrivent, ils incarnent, ils sont dedans. La bascule, ils nous l'ont tous dit, elle n'est pas évidente. Quand on sort du théâtre, quand on sort de ces grandes œuvres, on a eu Cyrano, un exemple là, de faire la bascule sur le doublage, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Moi, j'ai mis beaucoup de mal. Moi, c'est Dominique Paturel. Voilà, en plus, c'est drôle qu'on en parle. Oui. C'est Dominique Paturel qui est venu me chercher. Voilà, Dominique Paturel travaillait avec mon maître, qui s'appelle Jean-Laurent Cochet, qui est le maître de Lucchini, de Depardieu, d'Isabelle Huppert, enfin de tous ceux qui cartonnent au cinéma et au théâtre depuis 30 ans. C'est lui qui nous a appris de Richard Berry, qui m'a appris ce terme. Je ne vais pas vous apprendre à jouer, je vais vous apprendre à déjouer. Voilà. Jouer, c'est pour les enfants. On joue aux cow-boys, aux indiens. Voilà. Maintenant, déjouer, c'est pour les professionnels. Guitry disait tous les êtres humains sont comédiens. Tous les êtres humains sont comédiens. Sauf quelques comédiens.
Voilà. C'est intéressant comme vision.
Mais oui, parce que c'est extrêmement difficile de parler avec le texte d'un autre et de faire croire que c'est le sien.
Et quand on y pense aussi, je ne veux pas rendre ça péjoratif, mais quand on pense à certains vendeurs dans des marchés, certains politiciens aussi, est-ce qu'ils sont...
Ils sont comédiens malgré eux.
Entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire.
Mais c'est pour ça que là, en doublage, souvent sur les plateaux, quand les gens se trompent, ils passent leur temps moi y compris, hein, attention, j'applique tout ce que je dis à moi-même. Hein.
Bien sûr.
Évidemment, hein, je ne suis pas... Bref. Et les gens, quand ils se trompent, ils se disent « Pardon, je suis désolé, etc. On glisse pas, voilà. » Et souvent, il y a des gens qui me disent « Mais Antoine, c'est super dur comme mot. » Je dis « Mais c'est pas dur, c'est notre métier. De quoi vous me parlez ?» Comme c'est notre métier, ce qu'on a à dire, ça ne peut pas être dur, puisque c'est notre métier. C'est dur, en effet, si ce n'était pas ton métier. Ouais, je comprends que dire probablement, si ce n'est pas ton métier, c'est dur. Dire anticonstitutionnellement, si ce n'est pas ton métier, c'est dur. Dans une phrase, c'est colonel O'Neill. Moi, j'avais le mot colonel O'Neill à dire dans Stargate. Mais la première fois que c'est arrivé, je l'ai repris 27 fois. Parce que moi, j'ai commencé... Quand j'ai commencé le doublage, quand Dominique Paturel est venu me chercher dans Cyrano, au Théâtre Marigny, il m'a dit « Antoine, tu connais le doublage ?» Je dis « Non, c'est quoi ça ?» Il me dit « Mais je ne savais même pas, je n'avais même pas pris conscience qu'il y avait une discipline qui s'appelait le doublage. » Qui existait, parce que moi, je ne voulais pas faire du doublage, je voulais faire du théâtre. Je voulais pas faire de cinéma, je suis pas bon au cinéma, je suis pas bon à l'image. Donc je voulais faire... Mais voilà, il faut appeler un chat un chat. Je voulais faire du théâtre. Parce que je pensais que j'étais bon au théâtre. Et il m'a emmené sur un plateau, rue Beethoven, et là je rentre sur le plateau et je vois, pendant toute ma vie, je vois la Rolls du doublage. Et pour moi, il y a quelques comédiens, vraiment il n'y en a que quelques, hein, et sur les doigts d'une main, que je compte en doublage, que j'admire. Admirer, c'est aimer. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres, hein, mais les autres, j'ai aucune admiration pour eux. Il y a quelques comédiens, dont un, qui a toujours suscité une admiration colossale de ma part, c'est Patrick Poivet. Je n'en revenais pas. Un type qui se comporte devant un micro de la même manière qu'il est dans la vie, Mais sauf que dans le micro, c'est pas son texte, et on a l'impression que c'est son texte. Moi, j'étais bluffé. Et il y avait un autre que j'aimais beaucoup et que je trouvais très bon, que j'ai beaucoup dirigé aussi, qui s'appelle Michel Lazorne, qui double dans Friends, qui double Ross, je crois.
Ah oui.
Ah oui, oui, oui. Je vois.
Voilà. Et donc j'arrive, je les écoute et je dis à Dominique, mais jamais j'arriverai à faire ça. Il y a une technique colossale à apprendre. C'est pas une question d'émotion, c'est pas une question de sensibilité, c'est pas une question de cœur, c'est pas une question d'âme, c'est une question de technique.
Et pardon, sans vouloir vous couper, par rapport à ce que vous disiez sur Poivet, des fois ça arrivait, enfin je caricature, soit qu'il ait une bière ou du pop-corn à côté qui paraissent complètement déconcentrés, et en deux secondes, alors qu'il a l'image, il se met totalement dedans, alors qu'il n'a pas tout le contexte, mais comme s'il l'avait fait depuis 500 jours.
C'est exactement ça.
Et c'est ça, pour l'avoir vu plusieurs fois, qui est assez.
Jean-Paul me racontait cette histoire quand il travaillait avec Pierre Brasseur. Pierre Brasseur buvait beaucoup. Et je crois qu'il a joué au théâtre avec lui. En tout cas, il a été le voir. Et Pierre Brasseur, en coulisses, il était ivre-mort. Ivre-mort. Et il mettait un pied dans la lumière sur scène. Et c'est comme s'il n'avait rien bu. Il ressortait, il était heureux, ivre-mort. Voilà. Et donc, Poivet, c'est pareil. Alors,
la voix de Bruce Willis.
Bruce Willis, entre autres. Mais c'est pas ça. C'est que Poivet, il a un supplément d'âme que les autres n'ont pas. Il a un supplément de diction, un supplément de sensibilité que les autres n'ont pas. En doublage, les gens s'écoutent beaucoup. Le problème des comédiens, c'est qu'un...
C'est un milieu qui fait rêver, qui fait passer beaucoup de gens, non ?
Non. Oui, aujourd'hui.
Oui, je parle
aujourd'hui. Aujourd'hui, mais n'importe qui.
Parce que là, j'ai pris une image d'illustration. Il n'y avait pas d'image particulière. C'était l'image d'un studio, parce qu'il y avait la barre de doublage, il y avait ce lieu-là. On voit qu'il y a une jeune génération de comédiens... on se retrouve là. Alors à une époque, on se retrouvait à plusieurs. Moi, je me souviens de la grande époque où vous aviez Dax, Hernandez, Carrel qui se retrouvait, qui chantait tous ensemble.
Ouais. Tous ces gens-là.
Ce lieu-là, comment vous expliquez qu'il fasse rêver autant de gens aujourd'hui, de jeunes
comédiens? Alors, c'est pas le lieu en lui-même, parce que celui-là, en plus, il est tout pourri comme studio. Je ne sais pas lequel c'est, mais ça doit être un de ceux sur lesquels j'ai travaillé à l'époque.
C'était une image d'illustration que j'ai
trouvée. Oui, mais c'est exactement ça, un studio. C'est ça, c'est le studio que j'aimais bien. Alors que quand vous allez à Dobbing, c'est sublime. Les studios sont sublimes, les consoles sont sublimes, les ingénieurs du son... sont des très grands professionnels.
J'ai eu l'occasion de visiter, notamment la Plaine Saint-Denis, il y a toute une école et une entreprise qui est là-bas.
C'est époustouflant, tout est époustouflant. Mais c'est encore une référence. Un ingénieur du son, il n'est pas ingénieur du son du jour au lendemain. C'est toujours pareil, ce sont des métiers. Et les studios, pourquoi
le métier,
les gens...
En tout cas.
C'est pas le studio en lui-même, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune ambiance, puisqu'on est seul.
Ah oui, vous enregistrez de plus en plus seul en cabine,
ça va plus vite, à l'époque, on disait, beaucoup de comédiens me disaient, Antoine, mais j'aimerais bien enregistrer avec un tel, etc. Et souvent, je leur disais, d'accord. Et j'ai dit, pourquoi ? Il me dit, parce que j'aime bien répondre. Je dis, mais arrête, vous écoutez jamais rien. Vous vous écoutez tout le temps, vous écoutez vos phrases, vous écoutez pas la personne qui vous parle à la barbe.
C'est par rapport à ce côté narcissique que vous disiez un petit peu tout à l'heure, ils s'aiment beaucoup,
exactement.
S'écouter la plupart.
Et j'ai dit, et notre métier, c'est d'écouter la personne à qui tu parles. Mais bon, dans le doublage déjà sur un plateau de théâtre, on est obligé, au bout d'un moment, on est forcé d'écouter la personne. Mais initialement, on n'écoute que soi. Avant de répéter. Et sur les plateaux, pour les cueillir, je dis, et vous écoutez même pas ce que vous ne pensez même pas ce que vous dites. Et les gens me disaient, mais pas du tout, etc. Donc je laissais faire, je dirigeais, je laissais faire, et puis tout d'un coup, j'arrêtais quelqu'un, je lui dis, tiens, arrête-toi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu es en train de dire?
Je vois ce que vous voulez dire.
Donc tu sais pas ce que tu es en train de dire. Là, si vous m'arrêtez pendant que je suis en train de parler, je suis en train de vous dire, il savait pas ce qu'il était en train de dire. Parce que je suis. En train de penser à ce que je dis.
Ils sont plus concentrés sur eux-mêmes.
Ils sont concentrés sur la manière dont ils vont dire la phrase. Ouais, dans la manière la plus jolie, la plus jolie pour dire la phrase. Mais moi, c'est ce que je dis. En doublage, on n'est pas là pour faire du joli. On est là pour faire du vrai.
Sans un certain lâcher-prise, si je puis dire.
Avec une contrainte qui est la contrainte de l'image, donc une technique qui passe avant la sensibilité. Parce que l'image est plus forte que la voix.
Oui. Oui,
donc on doit se plier aux attaques, au final, au labial. À l'époque, quand je suis arrivé en direction de plateau, les gens ne savaient pas ce que c'était une attaque, ne savaient pas ce que c'était qu'une finale, ne savaient pas ce que c'était qu'une réaccentuation, ne savaient pas ce que c'était qu'ouvrir un sens, fermer un sens. J'ai dit, mais vous sortez d'où? Les mecs, c'est votre métier. Vous sortez d'où? Et donc, quand je disais, mais tu pourrais accentuer le mot là? Je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu peux penser plus fort à ce mot? Est-ce que tu peux penser plus fort à ce mot? Donc les gens faisaient, d'accord, je vais penser plus fort à ce mot. Donc il n'y avait rien qui sortait. Parce que ce n'est pas une question de son. C'est une question de pensée. C'est penser plus fort. Quand il y a des choses qui sont plus importantes, on y pense plus fort, donc on les réaccentue.
En tout cas, votre profil est plus atypique, hein, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis
non,
là,
non,
puisque
non.
Est-ce qu'on vous reproche, ne le prenez pas mal,
oui, oui,
d'être
tout.
Plus dur ou franc, mais en même temps, franc. Je sens que vous voulez les niveler vraiment par le haut. Et surtout, comme vous êtes comédien et vous-même directeur de plateau, est-ce que vous êtes, en toute honnêteté, plus tolérant ou plus sévère, sachant que vous êtes des deux côtés de la barrière vis-à-vis de vos interlocuteurs?
Alors, je suis extrêmement, on va dire, extrêmement tolérant, à la limite transparent, voire un loukoum avec les débutants, parce que j'ai été débutant, et que j'ai été confronté à des gens qui, quand vous vous trompez, font...
Alors là,
ouais, c'est vachement utile.
Pas d'où ils viennent.
Non, non, mais ouais. C'est vachement. En plus, ça aide vachement quand on est. Moi, quand j'ai commencé le doublage, je transpirais. J'avais tellement peur que je transpirais tellement sous les aisselles que c'était même pas ma chemise. Les gouttes, elles tombaient directement sur le pantalon. Ça fait que j'étais trempé sur le pantalon.
Ah oui, oui.
Pour vous dire à quel point, quand j'ai commencé le doublage, j'arrivais même pas à dire bonjour, madame. Et je m'en souviens, un garçon qui s'appelait Gérard De Salles, qui s'appelle toujours Gérard De Salles, qui m'avait engagé à
l'école,
me disait, mais Antoine, je comprends pas, tu joues tous les jours, hein, Jean-Paul Belmondo,
entre autres.
Voilà, tu joues tous les jours avec Belmondo à Marigny, il y a 1200 personnes devant toi, on dirait que...
Oui, c'est vrai, c'est étonnant.
Ouais,
oui,
comment vous faites? Ah, c'est paradoxal.
Ouais, ouais. Et là, t'arrives, il n'y a personne, on est quatre dans la salle, t'arrives même pas, quand tu dis bonjour madame, tu dis bonjour madame. Antoine, bonjour madame. Je dis bonjour madame. Mais dit, mais Antoine, je disais, mais je sais, je fais pas exprès, j'y peux rien, c'est comme ça.
Qu'est-ce que je disais? C'est quoi? C'est parce qu'on capte dans cette salle-là de doublage, on capte le regard des autres,
ouais,
on capte
l'énergie
de
l'annulité.
Négative ou positive d'ailleurs.
En plus, c'était quelqu'un de plutôt bon. C'était quelqu'un qui avait un bon cœur, donc et qui était positif. Après.
Mais je comprends le principe parce que moi, par exemple, ça m'arrive de faire des choses sur des scènes et où on distingue à peine le regard des gens et c'est moins flippant que de faire des exposés dans une salle de classe où il y a 15 personnes qui nous regardent.
Mais
c'est
exactement.
C'est paradoxal. Pour moi, c'est le même principe, quoi.
Ou comme Dorothée dans un autre genre qui est capable de remplir Bercy. Mais à côté, sur quelques interviews, quelques trucs,
elle panique,
c'est pas trop
elle panique,
délire,
ouais, ouais, complètement. Mais c'est normal, parce que c'est pas notre métier. Moi, je suis à l'aise dans mon métier. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je suis à l'aise sur scène. La scène me fait pas peur. J'ai peur en coulisses. Mais dès que je mets un pied, c'est fini.
Donc vous êtes assez direct, mais vous oubliez pas quand même d'où vous venez.
Ah
vous
non, jamais. En revanche, les professionnels qui merdent, qui foutent rien, qui glissent 10 ans avant sur probablement et qui continuent à le glisser 10 ans après sur probablement, j'ai aucune pitié. Je suis pas là pour les soutenir. Je suis pas une béquille. Je suis pas là pour leur donner la béquille. Faut pas oublier qu'un directeur.
Ceci dit, ils seront peut-être rarement arrivés jusqu'à votre plateau.
L'avantage, j'ai eu un énorme avantage par rapport à tous les pseudo directeurs de plateau. Parce qu'il y a beaucoup de pseudos hein, qui ne devraient pas être là, qui sont ni comédiens, ni acteurs, et qui osent vous donner des conseils sur ce que vous devez faire, et qui seraient incapables de le faire eux-mêmes. Donc ça me fait toujours rire. Voilà, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit que tu peux mettre un peu de bleu dans ta phrase. J'ai dit, pardon, quoi? c'est ça tes indications de merde, là? Mettre un peu de bleu dans ma phrase? Tu sais où je vais te le mettre pour mon bleu? Voilà. Il y a un moment, c'est vrai, on se dit, mais c'est quoi ces conneries? Ces gens-là dirigent des produits qui vont être regardés des millions de spectateurs. Et il y a toujours, comme dirait Picasso, il y a toujours un abruti qui va dire, vous mettez du rouge au ciel, du bleu sur le gazon et vous peignez la mer en je ne sais pas quoi, en jaune. Il y a toujours un crétin qui trouvera ça admirable. Donc le problème, c'est toujours, pareil, on en parlait, c'est une question de culture. Si les gens ne lisent pas, n'importe quel auteur est un génie. Mais quand vous avez lu Victor Hugo, Claudel, Guitry, Rostand, Monterland, après, vous faites comment pour lire les autres?
C'est pas être snob, c'est juste.
C'est ça.
C'est juste être, savoir reconnaître
des bases.
C'est avoir des bases.
Le minimum.
Alors, je dis pas que j'ai eu des bases. Moi, j'ai des toutes petites bases. Moi, contrairement en plus par rapport à ceux de la Comédie Française, qui disent mais c'est invraisemblable ce qu'ils disent, ces gens-là, ce qu'ils connaissent. Mais bon, c'est toujours. Un jour, j'avais été voir une. Ah non, je vais pas le dire. Non, c'est pas grave. Non, j'avais été voir une pièce, mais je vais pas en parler. Parce que
non,
c'est...
Bah, on va pas vous mettre en porte-à-faux. Je pensais vraiment pas qu'on aurait une telle franchise avec vous et sur ce métier qu'on découvre notre
façon. Qui change.
Mais ça reste un métier. Attention, ça reste un métier merveilleux.
J'entends totalement.
Attention, hein. J'ai beau, souvent on me dit Antoine, tu tapes, tu critiques, non, c'est factuel. C'est fait. Quand je vais à un restaurant, la dernière fois, je mets sur Instagram souvent les fautes.
Ouais.
Je ne vais jamais. Mais il est allé.
Ah, mais oui, mais on en parle sur TF1 ouais. ou pas que TF1.
Toutes ces liaisons.
Des fautes de,
mais
de,
toutes
de
ces
Français,
liaisons de merde.
Ouais, c'est vrai.
Une liaison, c'est fait pour quoi? C'est fait pour lier deux mots. Donc si jamais vous dites ce sont des.
Ah oui.
Amazones. Donc, il y a un nouveau mot qui s'appelait
Zamazon.
Donc, c'est une faute.
Ah bon? Parce que c'était pas.
Non, voilà, on peut pas dire ce sont des. Mais alors, ce sont des.
Et est-ce que vous dites, pardon, je rebondis de manière un peu légère dessus, mais c'est typiquement le réflexe qu'ont les enfants. Quand ils sont tout petits, moi j'ai une nièce, elle apprenait les mots et à 3 ans, elle avait entendu parler des abeilles.
Oui.
Des abeilles.
Et donc, forcément, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, elle est où? Là.
Les abeilles.
Ah bah oui.
Et bah voilà.
C'est exactement ça.
Tout est dit.
Voilà.
Tout est
c'est
dit.
Exactement ça.
C'est tout.
Sauf qu'à 3 ans, c'est mignon.
Non, mais à 3 ans, je le ferai. C'est-à-dire, sur un plateau, pour une petite fille de 3 ans, je le ferai faire.
Ça passe, bien sûr.
J'ai eu une série magnifique il y a quelques années. Je ne sais plus le nom, une série québécoise, mais à tomber par terre, avec que des filles qui se retrouvent, qui doivent habiter, qui se retrouvent 30 ans après. Leur rêve, c'était de vivre tout ensemble. Elles se retrouvent 30 ans après, donc elles ont le moyen, elles achètent une grande maison, elles vivent toutes ensemble, donc c'est le bordel. Et il y en a une qui est un peu plus simple qu'une autre, et elle a un rendez-vous avec un mec avec qui elle a envie d'être, et la carte arrive, et il y a des homards dessus. Et la fille, je lui fais dire, c'était Gaël Le Fur à l'époque,
ah oui.
qui doublait cette comédienne, et elle me dit, mais alors, est-ce que je peux prendre des homards? Et je dis, non, Gaël, tu vas faire rire tout le monde et tu vas dire, est-ce que je peux prendre des homards? Elle me dit, mais toi, je dis, non, mais elle, dans la vie, elle parlerait comme ça. C'est drôle ce monde parce que toute la vie, toute la journée, on entend des fautes à la télé, match de foot, il n'y a pas de A match, donc on ne peut pas dire match de foot, point barre. On dit match de foot, c'est très dur, mais c'est comme ça, il n'y a pas de...
Ou les malgré que,
ou malgré c'est malgré que, voilà, fait, une c'est... femme, pourquoi on dit une? On a inventé, la langue française a inventé le E muet, pourquoi on le dit? On ne dit pas une femme, on dit une femme. On ne dit pas une voiture, on dit une voiture.
Et encore beaucoup de gens qui disent aussi, j'ai été à Paris, je suis allé à Paris, enfin des petits détails.
Tout d'un coup, dès que vous dites le frère à ma mère ou je vais au coiffeur, Antoine, tu te rends compte? Ben non, c'est la même chose. Moi, quand j'entends match de foot, j'entends le type, je vais au coiffeur.
Oui, c'est ça.
Pour moi, c'est la même chose. Alors, tout d'un coup, les gens qui ont 3 lettres, tout d'un coup, ils vous disent oh, mais on va jamais au coiffeur, c'est jamais le frère à ma mère, c'est le frère de ma mère. Oui, comme si je ne le savais pas. Mais tu l'entends, la personne, 2 secondes après, elle dire oh, j'ai vu un match hier, et j'étais dans une voiture. Et tu dis bon, c'est pas grave. Mais tout ça, c'est pas grave en plus.
Non, non.
C'est ça qui me. Les gens, je le prends passionnément parce que j'aime passionnément mon métier
ça doit,
et que je veux le passionnément le défendre parce qu'on est confronté au
jour. Il sera beau que si on y fait attention.
Exactement. Et que pour contrer l'IA, il faut que le métier y dure, il faut qu'il continue à vivre parce qu'il y a des gens qui vivent grâce à ce métier.
C'est pas ma VF.
Exactement. Et pour ça, il faut avoir un doublage. Pas de qualité. Il faut avoir un doublage remarquable. Voilà. Et pas un doublage approximatif.
Alors justement, je voudrais... le temps passe malheureusement trop vite. Dans un instant, je voudrais quand même vous poser une question. Puisque vous avez cette franchise, on va essayer de la voir aussi ensemble sur un certain aspect. Mais je voudrais entendre un extrait aussi pour parler un peu de ce doublage et de ce travail-là. Un petit extrait d'un animé qui est évidemment qui est culte.
Oula.
Il y en a plein.
C'est quoi? C'est Lord Dragon?
Non.
Les chevaliers, Toriko.
T'es malade, dis-moi très vite comment tu t'appelles.
On m'appelle Luffy. Je serai très bientôt le nouveau roi des pirates.
Comment ça, le roi des pirates? On dirait que tu racontes n'importe quoi. Tu sais ce que ça veut dire, le roi des pirates?
Le roi des pirates, ça veut dire le roi des pirates. Tu crois que je suis complètement idiot ou quoi?
Il est très sérieux. C'est un garçon qui est plutôt surprenant. Et il pense sérieusement être un jour ou l'autre le roi des pirates et trouver le fabuleux trésor que le dernier roi a caché quelque part.
Tu as fini d'essuyer le plancher de la taverne? Je croyais que vous aviez tous filé vos réfugiés.
Ah ouais, c'est...
Ah ouais, One Piece.
One Piece, c'est mon premier... Non, c'est pas mon premier. Hein. Je veux faire Gundam Wing juste avant.
Ouais,
j'avais fait des trucs énormes à la Sophie. Faut pas oublier qu'elle... Là, on parle d'une période Luffy, One Piece, et les premiers épisodes, c'est en
2000, quel... je crois.
En l'an 2000, donc il y a 26 ans. Mm-hmm. 26 ans, c'était encore le club Dorothée.
Non, c'était fini.
C'était après. C'était,
ouais, mais c'était
fou.
C'était, pour, c'était encore pour le club.
Non, hein.
Non.
97, le club Dorothée. 90. Et non, mais non, on croit toujours. Mais
disons
mais
qu'il y a eu la période des deux
doublages. Bon, à 3 ans près. Mais ouais. C'était le travail. C'était, ouais. Là, ça a été enregistré chez AB Productions. Moi, je sais, j'ai
ça, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a eu deux doublages, effectivement.
Voilà, nous, on travaillait encore à AB Productions. Et le doublage à l'époque, comment dire, c'était pas aussi. Comment dire, c'était pas aussi. Ça n'avait pas autant de valeur qu'aujourd'hui. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on...
Et pourtant, c'est une époque où il y avait les plus grandes voix qu'on connaît encore aujourd'hui. Pourtant, c'est le paradoxe. Pourtant,
alors, le paradoxe, n'oublions pas, le grand paradoxe de l'époque. Qui, c'est là où je vais être encore très sincère. J'ai jamais vu Jean-Paul Belmondo au doublage. J'ai jamais vu Richard Berry au doublage. J'ai vu Dussolier.
On a vu Claude Arditi. Pierre Arditi.
Voilà, j'ai vu Pierre Arditi. J'ai vu un autre acteur que j'aime beaucoup. Ça va
Si Berry n'a pas fait Corto Maltese, malgré tout.
Oui, non, mais il y en a. Ça arrivait quand même.
Bon, comme vous dites,
c'est rare. On faisait du doublage. Les gens qui faisaient du doublage, les comédiens ou les acteurs qui faisaient du doublage, c'est parce qu'ils ne faisaient pas de théâtre et pas de télé.
Ah oui, par compensation. Limite.
Mais oui, il ne faut pas oublier. Le but, quand on est comédien, quand on est acteur, à l'époque, le but, c'était pas de finir au doublage.
Oui. On appelait ça le parent pauvre du métier de comédien.
C'est pour
c'était
ça.
Répété longtemps.
Voilà,
c'est peut-être aussi pour beaucoup de gens une façon de se dire ça me donne des rôles que jamais on me donnera dans la vie de tous les jours.
Mais oui, mais ce sont des
Brigitte rôles. Brigitte Lecordier n'aurait jamais pu jouer un petit garçon sur un nuage avec une queue de singe.
Alors je suis d'accord.
Ou un moyen de gagner de l'argent facilement pour rentrer dans l'art.
C'est surtout ça. Mmh. C'est surtout ça, on va rentrer dans l'art.
Pardon. Hein,
c'est comment gagner 10 000 euros en un mois en ayant bac moins 12. Eh ouais, faut pas déconner. Arrêtez les conneries, quoi. Comment le doublage, mais les gens ne se rendent pas compte. C'est à partir du moment où on commence à travailler, c'est du délire ce qu'on gagne. En étant bac moins 12. Voilà, j'en connais pas qui ont bac 22 en doublage et qui sont devenus, et tous ceux qui sont devenus des stars, généralement, ils ont, au bout d'un moment, ils ont arrêté. Voilà, c'est que
Mais alors justement, quand on a un grand comédien, c'est pour ça que, parce que malheureusement, comme le temps nous file, et je veux quand même avoir votre avis là-dessus, parce que j'aime beaucoup votre sincérité, votre authenticité. Vous avez cité un nom tout à l'heure qui est hyper intéressant, qui est Emmanuel Curtil.
Oui, j'aime beaucoup.
Emmanuel Curtil, vous lui avez succédé,
oui.
Si je ne me trompe pas, dans la
avec son
de
accord.
Chandler, avec son accord.
Ah, oui, oui.
Voilà, donc c'est ça, c'est là-dessus que je voulais vous entendre, parce que je sais que ça a été une période qui a été très,
très difficile.
C'était la période de la grande grève
94.
Des comédiens
de bourgeois
du doublage. Et il y a dans Friends, pour ne citer que cette série, il y a évidemment deux équipes. Il y a ceux qui sont partis et ceux qui sont restés ou qui sont arrivés. Mike Dara, par exemple, en a fait partie. Mmh. Et vous êtes arrivé en remplacement sur les saisons 9 et 10 pour Matthew Perry. Donc, avec son accord, ça m'intéresse.
Ah oui, bien entendu.
C'était primordial parce que certains ont été vus comme des casseurs de grève à l'époque.
Non.
Ça a été compliqué. Et les comédiens qui arrivent et qui succèdent à des gens qui sont en grève.
Non, les vrais casseurs de grève sont ceux qui sont passés dans les coffres des voitures pour aller travailler quand même. Voilà, ça, c'est les casseurs. Je ne vais pas citer les noms.
Il y avait les doubles jeux.
Ouais, ça, c'est les vrais casseurs. Ils continuent à travailler alors que tout le monde fait grève. Moi, j'avais dit très sincèrement à l'époque, vous êtes en train de faire une grève de bourgeois. Vous gagnez tous au minimum 5 000 euros. On était en francs, mais à l'époque, c'était 5 000 euros par mois. Moi, j'ai vu des salaires de 33 000 euros. Hein. J'étais presque à vie avec mon patron, qui s'appelait Monsieur Salva. Sur son bureau, j'ai vu une fiche de salaire de quelqu'un que je ne vais pas citer, parce qu'en plus, je le déteste.
Juste ses initiales.
Non, je plaisante.
De 33 000 euros. Et ces mêmes gens, quand c'est votre ami, ces mêmes gens se sont permis, quand M. Salva, au bout de 2 mois et demi de grève, et que... le but de la grève, c'était quoi? D'avoir des droits de suite. D'avoir, c'est ce qu'avait dit, je crois, à tort, je pense, Francis Lax, en disant « Moi, j'ai doublé Starsky et Hutch, et donc vous avez été payé combien pour le doublage ?»« Ben, j'ai été payé 500 euros. » Salva a pris son téléphone, il dit « Excuse-moi, je crois que c'est plutôt 50 000, si ce n'est 500 000, j'en sais plus. Mm-hmm. Pourquoi tu dis que tu as été payé 500 euros ?» Parce que si tu as été payé 500 euros, j'aimerais bien que tu me rembourses. Il dit « Non, mais c'est passé 100 fois, donc j'ai divisé par 100. »
Ah. Ah ouais, d'accord, oui, mais bon, là c'est
joué avec les mots, là. Mais ça s'entend
non.
aussi.
Mais je suis d'accord sur le principe.
Non, sur le principe.
Mais pourquoi on était payé aussi cher?
Enfin, on n'a pas mis le couteau sous la gorge non plus.
Non, et d'une, c'était dans...
On ne le savait peut-être pas forcément.
Non, mais on ne pensait pas que ça allait être rediffusé continuellement.
Oui, voilà, c'est ça.
C'était pas prévu.
Pardonnez-moi, mais moi je suis un peu naïf, mais en quoi c'est différent de réexploiter à l'infini sur des rediffusions le travail qui a été fait par des comédiens,
voir les DVD,
ou de le calquer avec une IA aujourd'hui. Pour moi, c'est à peu près pareil.
Ça c'est encore. Oui.
C'est à peu près pareil. Dans l'exploitation qui est faite de votre travail, qui est mal exploité et mal rétribué.
Ah non, mais
de la démarche négative.
Non, mais à l'époque, c'était pas. À l'époque, en plus, on avait un truc qui s'appelait la ligne au carré. La ligne au carré. C'est-à-dire que. La ligne au carré est arrivée. On n'avait pas la ligne au carré. Avant, quand on faisait « Oh !», c'était une ligne. Quand tu faisais « Ah !», c'était une ligne. Tu faisais « Ah bon ?», c'était une ligne. Tu faisais « Je... », c'était une ligne. Aujourd'hui, c'est 52 caractères d'affilée, sans ponctuation, sans blanc. Et ça fait une ligne. Donc, on est divisé par 3 ou par 4 les salaires. Moi, j'étais pour, à l'époque, qu'on garde, qu'il n'y ait pas de ligne au carré, qu'on continue à qu'on n'ait pas de droits. On s'en fout, les droits, on signe pour 25 ans. Pour 25 ans, moi j'ai fait une série qui s'appelait Inspecteur Barnaby, que j'ai dirigé, je double Troy. Ça fait 25 ans, j'ai jamais été repayé, et pourtant ça repasse. Je suis pas un mec de procédure.
Mais vous qui parlez du théâtre,
oui.
Si vous jouez un rôle pendant 25 ans, vous allez être payé à chaque fois.
Mais je serai payé à chaque fois, mais en doublage, quand vous doublez, vous êtes payé à chaque fois, c'est le même principe. Et oui. C'est pour ça que j'ai toujours préféré. Alors j'adore le doublage, mais quand on dit je joue un rôle, on joue pas de rôle au doublage. On joue pas, puisqu'on lit. On peut pas jouer. On fait des bonnes lectures. On fait des lectures intelligentes. C'est ce que disait José Lucioni.
Ça veut dire que le comédien qui fait
donc la voix d'Al Pacino.
Non, mais le comédien qui fait du feuilleton en radio, il est pas comédien non plus. Alors il fait que lire. Le comédien qui fait du feuilleton radio, c'est le même principe, peut-être que pour un.
Je connais, j'ai pas entendu, ouais. Donc je peux pas juger.
Non, mais le feuilleton radio, comme il y en a eu beaucoup à une grande époque, de grands comédiens ont fait chez France Inter, chez France Culture, ça se faisait beaucoup, on jouait des grands rôles, des feuilletons radiophoniques, c'était l'ancêtre des séries.
C'était des comédiens alors.
Oui, mais ils avaient un texte devant eux, au même titre que pour le doublage. Donc,
Oui, mais ils l'avaient lu avant. Ils avaient travaillé le rôle, ils avaient lu la pièce, ils avaient lu l'histoire avant. Nous, on lit pas l'histoire. Vous arrivez sur un plateau, le directeur de plateau, quand il a un peu de temps, il dit « Alors, c'est l'histoire du type, il va faire ça, il va arriver ça, etc. Mmh. Là, tu arrives à cette telle situation, là, tu es embêté, donc tu dois dire à ta femme ceci, tu joues un... » Ça va pas plus loin. C'est ce que disait José Lucioni. C'est quoi le doublage? C'est du karaoké intelligent.
Ah oui, mais il y a beaucoup de comédiens qui n'aiment pas cette expression.
Ah ouais, mais moi, je m'en fous, moi, de ceux qui aiment. Moi, j'ai toujours été là pour dire la vérité. C'est du karaoké intelligent, on va pas plus loin. Un comédien, c'est un mec qui apprend. C'est dur d'apprendre. Quand vous demandez à des gens sur un plateau, quand vous changez un mot dans une phrase, vous êtes sûr que vous prenez au moins 10 fois pour refaire la phrase. Les gens n'arrivent pas à retenir le mot qui a été changé au milieu de la phrase. Parce que la bande rythmo, on ne va pas l'écrire sur la bande rythmo, on ne peut pas le changer. Donc ils redisent après le temps d'interpréter. Parce que comme la plupart des gens ne pensent pas ce qu'ils disent, donc ils sont fixés. Le problème du doublage, c'est que les gens jouent des phrases. Lou, quand je vous parle, je ne joue pas des phrases, je joue une situation. Je suis en train de vous parler d'un ensemble de choses avec un vécu.
Mais est-ce que ce n'est pas quand même paradoxal avec ce qu'on se dit depuis tout à l'heure? Parce que quand même, depuis tout à l'heure, on se dit, pendant très longtemps, et nous-mêmes, quand on était gamins, on se disait, on n'a pas l'impression qu'il y a un doublage.
Ah, mais ça, c'est le plus grand compliment.
Mais si on n'a pas entendu qu'il y a un doublage, c'est bien que les gens...
Star Sketch, Dallas, on
trouve. Exactement, voilà. Ça, c'est dément. Madame est servie avec Maurice Sarfati.
Mais c'est le cas
c'est pas du tout synchrone.
Mais c'est le cas dans beaucoup de productions.
Ou super enfin, non, j'ai l'impression. Mais c'est très simple. Vous savoir si un doublage est bon? Vous allumez la télé, vous allez dans votre cuisine. Voilà. Ou ailleurs, dans changer de pièce. Et dites-vous si c'est doublé ou pas. C'est tout. En 2 secondes, vous savez si c'est doublé. En 2 secondes. Moi, je vous le dis tout de suite. Et vous savez si c'est une série française. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est rien de plus simple. Un doublage, c'est quelque chose qui se voit pas. Si ça se voit, c'est que c'est foutu.
J'ai une question sur les animés qu'on doit vous poser parce qu'elle revient souvent. Alors vous avez dirigé donc Dragon Ball, vous avez pris la relève d'autres directeurs de plateau comme Pierre Trabeau, etc.
Trabeau, ouais, excellent, grand comédien.
Du One Piece, du Sailor Moon, etc. Vous êtes la voix pour les nouveaux Olivier Tom, Sonic X, la voix de Sonic X. On dit depuis que Éric Le Grand est parti que c'est vous qui allez reprendre le rôle de Vegeta. J'ai deux questions là-dessus. C'est déjà vous d'avoir repris Dragon Ball, est-ce que ça vous a mis de la pression après que Pierre Trabeau soit parti, parce que c'est une série assez conséquente?
Non, parce que je connaissais Pierre. Il venait de chez Cochet. On a le même enseignement. Donc on a le même bagage technique, même bagage culturel, même bagage de connaissances. Voilà. Pierre Trabaud, il c'est un admirateur de Cochet comme moi, c'était mon maître. Donc aucun et puis c'est un homme de cinéma, un homme de théâtre. Voilà, faut pas oublier que tous ces gens-là, ils ont travaillé. Moi, je les critique jamais. J'ai des opinions après différentes. Il y a des bons et des moins bons comédiens. Hein.
Et est-ce que vous avez, parce que ça a changé aussi depuis les années AB, vu que Toé maintenant s'est installé en France avec des bureaux près de Saint-Germain-des-Prés,
oui, si je ne dis pas
de bêtises, ils viennent de temps en temps, parce qu'on a vu qu'avec Dragon Ball ZK,
on
disait plus les Dragon Ball, on a changé le nom, etc. Qu'est-ce qui change là-dedans et est-ce que ça vous met un peu de pression? Est-ce que ça change votre ligne éditoriale un petit peu en
tout Alors, ça m'a... moi, j'ai essayé de ne jamais avoir de pression. Dans le sens, et c'est là où je me suis fait beaucoup d'ennemis, et chez les clients, et chez les directeurs de boîte, évidemment, parce que je ne suis pas là en tant que... je suis pas là. Un metteur en scène n'est pas là pour obéir au producteur. Le producteur, il produit, le metteur en scène, il met en scène.
Chacun son boulot.
Chacun son travail. Et moi, les assistantes de direction, qui, la dernière fois, on m'a dit, Antoine, une grosse série pour dubbing, dit Antoine, il faudrait passer des essais, etc. Je dis, non, moi, c'est très simple, moi, je vous rends le produit, je ne le fais pas, tant pis, c'est pas dramatique, pour mourir. Hein. Je ne fais pas passer d'essais, je n'ai pas envie d'avoir des. Mais les clients veulent des essais. Mais je dis, les clients, quel client? Le client, le réalisateur de Pachinko, il veut des essais? Ou la personne ou les chargés de production veulent des essais pour placer leurs copains et leurs copines. Ouais, parce que voilà, moi je veux pas de ça. Qui dirige chez moi? Donc moi je prends pas des voix. Je m'en fous des voix. Je m'en fous complètement des voix. Oui, on est en France, on met toujours des voix graves sur des gens qui sont balèzes. Mais les gens balèzes, ils n'ont pas forcément des voix graves. C'est débile comme pensée. Moi je veux des énergies. Et je veux des gens qui se comportent comme des comédiens sur un plateau. Parce qu'en tant que directeur de plateau, je donne des indications. Et je veux que ces gens... je souhaite que ces gens s'imprègnent de mes indications. Parce que moi, mon but, quand je donne du talent, entre guillemets, aux gens que j'engage, ces gens-là me donnent du talent. Mon but, c'est leur donner, de faire ressortir le maximum possible tout leur talent pour faire croire que j'en ai. Parce que c'est à travers eux que j'ai du talent. Ce n'est pas à travers moi. C'est à travers mes indications que je me donne du talent. Et donc, moi, j'essaie de faire mon doublage le plus naturel possible. Moi, je n'ai jamais dit « Elle est garée où, votre voiture ?» Pour moi, c'est impossible de dire une connerie pareille. Moi, je dis « Elle est garée où, votre voiture ?» Et je fais une faute. J'en ai rien à foutre de faire des fautes ou pas. Je sais très bien qu'il y a « votre », ça s'écrit « V-O-T-R-E ». Mais personne dans la vie dit votre voiture. Tout le monde dit votre voiture.
Votre voiture. Dans la
voilà. Budget, ouais. Moi, je suis anti-liaison. En doublage, on n'arrête pas d'en faire. Au théâtre, on n'arrête pas d'en faire. Il n'y a que dans la vie qu'on n'en fait pas. Et au journal Information, j'ai jamais compris pourquoi, aux informations, ils faisaient toutes les doublages. Donc, la dernière fois, j'ai fait une série et je parlais de ça. Justement, je parlais de ça.
Donc, un je suis malade vous choque ou pas?
Je suis malade, moi.
Oui, voilà. Non,
ah,
non,
tu viens pas, pourquoi? Mais parce que je suis malade.
Okay.
Mais parce que c'est comme ça qu'on parle. Je suis pas professeur de français. Je suis pas professeur.
Oui, vous voulez que ce soit le plus naturel, quoi.
Mais c'est notre rôle. Mmh. C'est notre rôle de faire en sorte que ce qu'on dit ne prenne pas le pas sur ce qu'on voit. Le doublage, il doit être totalement invisible. Vous allez au théâtre, vous sortez du théâtre et vous dites, oh là là, j'ai adoré le décor. Alors les costumes, qu'est-ce qu'ils sont bien? Ben, vous avez raté votre mise en scène. Vous sortez du théâtre, moi j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Demain la liberté ».
Donc c'est plus sur les liaisons, mais pas sur certains
mots qui sont habitués. Mais surtout sur la manière dont on parle. Mmh. Quand j'ai écrit « Demain la liberté », j'ai pris Philippe Bozo, Franck Lorrain. On a commencé à répéter. Et la première répétition, j'ai dit à Philippe et à Franck, je dis « Mec, on n'est pas au doublage là. On ne fait pas du doublage là, on va être au théâtre. » Mais Antoine, c'est une pièce sur Kersten, le plus grand sauveur de l'humanité, qui a massé Himmler et qui a sauvé quasiment 600 000 personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale en massant le plus grand monstre de l'histoire, le chef de la SS et de la Gestapo. Et au lieu de se faire payer en numéraire, il s'est fait payer en vie. Et grâce à ça, il a sauvé 600 000 personnes. Et il me dit, mais Antoine, on est en 39, on est en 39. Je dis oui. Et alors? Il me dit, ben on peut pas. Ok, bouge pas. J'ai été chercher un DVD de Gabin, tourné à je ne sais plus quel film, et c'était un film tourné en 26, en 32, je ne sais pas quoi. Et je dis, il parle comment, là? Gabin, il dit, je ne suis pas d'accord, mon petit mec. Et il n'élite pas, là. Il dit je ne suis pas d'accord. Tu crois qu'il est en train de dire. C'est toute la différence entre Gabin et les autres. C'est toute la différence entre Belmondo, Delon, Depardieu, Dussolier et les autres. Les autres, ils s'appliquent, à bien dire. Et les stars, pourquoi ce sont des stars, en dehors du fait qu'ils ont eu de la chance aussi, mais ils ont une aura invraisemblable, une générosité invraisemblable, un sourire invraisemblable, mais simplement, ils parlent. Moi, quand j'ai travaillé avec Jean, quand j'ai travaillé avec Jean-Paul, c'est pour ça que j'ai été très ému.
Oui, comment vous vous êtes retrouvé là-dedans? Non, parce que vous avez fait
on est au bout du,
voilà, du rouleau.
On est au, non, pas au bout du rouleau, au contraire. On aurait des tonnes de questions, mais malheureusement, on est au bout du timing. Et...
Bah, alors, juste une dernière sur le doublage, quand même importante, sinon on va nous critiquer pour les auditeurs, ça on ne peut pas vous la poser. C'est Dragon Ball Daima. Est attendu. Dragon Ball Super, la fin est attendue. Si je la pose pas, on va se faire limite assassiner. Est-ce que ça fait partie? Oh, ben, c'est très attendu.
Si, pour les fans, c'est important.
Pour les fans, c'est vachement important. Adore, Et savoir si, enfin, je sais que vous avez des clauses de confidentialité. Est-ce qu'il y a des chances? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça paraît logique que ça passe prochainement par vous?
Honnêtement,
en toute honnêteté, voilà.
Ça fait avec Patrick, Brigitte, à l'époque évidemment Eric, ça fait un certain Marc, Céline, enfin toute l'équipe, hein, Philippe Ariotti, ça fait un an et demi, deux ans qu'on attend. On ne sait pas, mais comme Toriyama,
c'est ça qui est étonnant,
Toriyama est décédé, je pense qu'il y a un gros problème d'héritage et qu'ils sont en train de se battre pour savoir qui aura sa part. Est-ce qu'on fait le doublage? Je ne sais pas, j'imagine. J'en sais rien, mais c'est ce que j'imagine. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas doublé. Et puis voilà.
Mais pour l'instant, pas nouveau en tout cas.
Et j'espère que ce sera moi qui dirigerai, évidemment, puisque c'est. Même si ça ne m'appartient pas, attention. Ça
ne m'appartient jamais, malheureusement.
Personne.
Mais. Le travail est installé, il est là.
Mais voilà, et je le connais, et puis s'il y a une énergie, voilà, en parlant d'énergie dans le doublage, c'est là où je trouve que les voix sont absolument pas importantes. On s'en fout d'avoir une jolie, on va pas prendre des voix de Cressel, évidemment, mais on s'en fout d'avoir une jolie voix. Ce qui est important, c'est le jeu, c'est le non-jeu, c'est le naturel. Voilà,
Il y a un film de Vegeta en préparation, vous allez logiquement reprendre ce rôle si les choses se passent comme convenu,
vu que
vous devenez la nouvelle voix.
Puisqu'en accord avec Eric, c'est lui qui a souhaité que je reprenne ce rôle, d'abord par amitié, et puis voilà, parce que je...
Puis c'est vrai que votre voix est peut-être l'une des plus proches.
On est très proche, pareil, Eric Legrand sort de chez Cochet, c'est ça qui est invraisemblable. Tout ça est invraisemblable, Eric c'était un... Ça, c'était un putain de comédien facile à diriger, avec des desiderata, avec aussi, on s'est battu.
Très perfectionniste. Aussi,
il me disait, mais Antoine, moi je lui disais, par exemple, on avait des problèmes sur besoin et déjà. Et je lui disais, mais s'il te plaît, dis-moi, c'est déjà ça. Jamais je dirais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce qu'on ne dit pas, c'est déjà ça. Je dis, d'accord, pas de problème. Dis-moi, j'en ai pas besoin. Ah non, mais jamais, je dirais, j'en ai pas besoin. Je dis, mais dis-moi, j'en ai pas besoin. D'accord. J'attendais le repas. Et j'attendrai le repas. Et j'essayais de trouver une phrase où il est obligé de me répondre en me disant, c'est déjà ça, ou j'en ai pas besoin.
On reprendra son jeu si
je peux. Et à un moment, un jour, on était en face de chez Deluxe et sur la péniche, on déjeune, etc. Et je lui dis, tiens, tu veux ça? Il dit, non, vas-y, garde-le, j'en ai pas besoin. Et là, pourquoi, comme dans la vie, tu dis j'en ai pas besoin et sur un plateau, tu peux pas dire j'en ai pas.
C'est vrai que lui, en plus, il est très à cheval sur l'élocution.
Et il m'a dit Antoine, t'as raison, je suis désolé, t'as raison. De toute façon, je t'ai fait deux pistes, quoi. Tu me demandes toujours deux pistes. Ah. Une piste pour le. Moi, je veux pas me battre, moi. Une piste pour le comédien, pour ce qu'il pense. Et une piste, moi, je suis directeur de plateau, je suis le pilote du Boeing. Donc, normalement, c'est le cut final, c'est moi. C'est moi qui prends la décision. Le travail, quand le produit est à chier, normalement, c'est moi qui suis responsable. Et quand le produit est bon, normalement, c'est moi qui suis responsable. Or, ça ne se passe pas toujours comme ça. Quand le produit est bon, on dit que les comédiens sont merveilleux. Et quand le produit est à chier, on dit que le directeur qui a dirigé ça, il est à chier. Donc, ce n'est pas comme ça. Les comédiens, ils sont bons, normalement. Les comédiens, ils sont bons parce que le directeur de plateau, il est bon. Voilà. Sinon, c'est le directeur, entre guillemets, je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas ce dialogue, mais là, une mise en scène, les comédiens dans une pièce de théâtre, ils sont bons parce que le metteur en scène est bon.
Et comme vous êtes touche à tout et auteur aussi, etc., en gros, il faut que le texte soit bon, c'est ce que vous disiez en coulisses.
Je parle même pas.
Je suis vraiment désolé, mais...
C'est ce qu'il y a de plus important, le texte, je finirai là-dessus, c'est ce qu'il y a de plus important.
Voilà.
Un texte mauvais, c'est une voiture qui n'a pas d'essence, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Donc, en plus, moi, j'ai toujours changé le texte. C'est pour ça que j'aime pas ce qu'on appelle les relectures ou les trucs avant, parce que je m'engueule avec les auteurs, qui pour moi ne sont pas des auteurs, donc je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de... Donc, je change sur le plateau. Voilà. Voilà. Change sur le plateau, ouais. Et non pas change sur le plateau. Et c'est naturel.
Et non pas je change sur le plateau. Un bon texte et des bons comédiens.
Un bon texte, d'abord un bon studio, un bon ingénieur du son. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui travaille le plus, c'est l'ingénieur du son. Contrairement à ce qu'on pense, c'est celui qui travaille plus. Lui, il ne peut pas rêver, regarder son portable. Non, c'est lui qui est obligé de gérer toutes les merdes des comédiens qui déconnent, qui sortent, qui ont envie de pisser, qui regardent leur portable, qui sont ailleurs. Non, c'est vrai, parce que vous savez pas ce que c'est que la vie sur un plateau. C'est-à-dire que les mecs, la plupart des gens qui sont sur un plateau, ils sont tous sur leur portable au lieu d'écouter le produit. Voilà. Non, mais c'est invraisemblable. Quand j'étais dans Cyrano, on était 38 comédiens. Il y en avait 4 qui étaient en coulisses pour regarder le travail de M. Belmondo. 4 sur les 30, je parle pas des stars, je parle pas de Béatrice Agénien, Pierre Vernet, Michel Beaune, eux qui connaissaient Jean-Paul parce que c'était leur ami, mais des nouveaux comme moi, on était en coulisses, on était 2. Les autres, ils étaient en train de jouer au Yahtzee, à la pièce contre le mur, etc., en coulisses. On a Jean-Paul Belmondo à Marigny qui répète, et on n'assiste pas aux 80 représentations en restant dans la salle et en fermant sa gueule pour apprendre. Mais j'étais sidéré. Voilà, j'étais sidéré. Et le doublage, c'est pareil. Les mecs, ils sont tous. C'est pour ça que je dis que c'est pas un métier artistique, parce qu'ils sont tous en train de faire autre chose que de se projeter dans le produit qu'ils sont en train de faire.
Le côté auto-centré. Donc
c'est ça. Mais oui, c'est autre chose. C'est pas parce qu'on double un tel qu'on est un tel.
Eh ben, on va se faire des copains. On va se faire des copains. Voilà. Bon, j'ai essayé d'apporter la contradiction, mais voilà, c'était important aussi.
Donc c'est bien d'apporter des opinions différentes.
Que notre voix se fasse entendre. On arrive au terme de cette émission. Je vais juste me tourner vers Arnaud. On va juste, mon cher Nico, qui est en régie, uniquement terminer cette émission avec Arnaud et sa partie, parce que il l'a préparé. Je tiens à ce qu'on la fasse pour cette émission, pour terminer là-dessus, parce que c'est important. Parce que Arnaud va sans arrêt chercher, piocher dans les archives,
c'est
des archives animées. Et là, il y a un petit indice au cœur de lui. Il est allé chercher, vous savez, la publicité regorge de plein de logos, de plein de marques qui ont existé et qui n'existent plus, c'est ça ?
C'est ça, je voulais rendre hommage à cette partie de la publicité, de ce qu'on appelle le logotype, qu'on raccourcit en logo, et qui signifie effectivement l'identité d'une marque, mais il faut que ça exprime quelque chose. Ça revient très fortement avec ce que vous disiez. Et je voulais rendre hommage aussi donc, à un des plus grands créateurs de design, on va dire, qui est considéré comme le père de l'op art, donc l'art optique, qui s'appelle Victor Vasarely. En fait, les 120 ans cette année de sa naissance, et l'année prochaine ce sera les 30 ans de sa disparition. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer quel langage aussi il pouvait y avoir à travers des éléments visuels. Et Vasarely, c'est un plasticien, mais il a fait énormément de choses. Il a fait notamment aussi la façade du logo RTL qui était sur la façade de la rue Bayard, avec le point rouge et les cercles qui en partaient. Donc, je voulais vous montrer.
Qu'on retient bien, d'ailleurs.
Qu'on retient bien. Et la chose pour laquelle on le connaît le plus, ça va apparaître derrière moi.
On va voir apparaître le premier
logo. C'est le logo d'une marque de voiture. Donc il était capable avec des traits et des ombres, de donner une impression comme ça, un dynamisme et,
3D,
et un volume. Voilà,
c'est brillant. Hein.
Et oui, c'est brillant parce que ce logo existait déjà, donc il l'a dépoussiéré pour apporter sa touche. Ça date de 1972 et c'est devenu jusqu'à encore. Aujourd'hui, bien sûr, il est encore là, ce logo. Mais
et pardon, sans vouloir te couper, ça peut paraître simpliste, mais ça ne l'est pas du tout si on y regarde plus en profondeur, en fait, si je puis dire.
Oui, c'est ça. C'est l'idée de. Alors, ça s'appelle donc de faire appel au cinétisme, c'est-à-dire l'énergie cinétique. C'est le fait de un corps en mouvement traduit une forme d'énergie liée à sa masse ou à sa vitesse. Et donc là, il est parti de ce principe-là et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir peut-être des marques un peu disparues ou faire un petit jeu, essayer de vous faire découvrir si vous avez bonne mémoire de logo.
Allez, on joue.
Allez, donc le suivant, voilà.
Qu'est-ce qu'on gagne?
Est-ce que le suivant, vous le connaissez?
Est-ce que ça vous parle? C'est lié. Alors,
c'est pas des biscuits, ça, ou un truc à manger?
Non, mais non,
je l'ai vu. Hein.
C'est... On l'a vu.
Tu l'as vu. Ouais.
Préjudique, je m'en souviens. Je m'en souviens.
Absolument, c'est ça. Donc, alors là, on a cette forme, donc la révélation avec le logo. Donc au départ, c'était une fleur au centre, et c'est devenu après un autre logo avec la lettre P imbriquée. Et comme quoi, ils se prennent la tête, donc c'était comme sur mon t-shirt à moi.
Je vois.
Et si on regarde bien, il y a un P à l'endroit, un P à l'envers. Pourquoi ? Parce que Prise Unique était une filiale de Printemps, et donc il y avait les deux P qui étaient gardés comme ça. Et si vous regardez bien, toujours sur mon t-shirt, il y a un S qui les relie, c'est le S de supermarché. Et donc les gars se disent, bon bah tiens...
Placement produit.
En fait, voilà, il y a une volonté de fidéliser le client, évidemment, à travers un logo, mais c'est une identité vraiment qui nous rentre dans la rétine, et qui donc signe de tout ça. Tu le vois là, le P à l'endroit, le P à l'envers.
C'est marrant si les initiales printemps, prise unique.
Bah, c'était le prise unique.
Moi, je me suis fait avoir par le. Je crois que c'était un petit bout de gâteau.
C'est dingue comme ces marques restent.
Ces marques restent, bien sûr.
Restent en nous, quoi.
Et là, c'était donc un designer qui s'appelle Jean-Claude Bailly qui a fait ça en 1965. La fleur disparaît en 72 et après, c'est resté jusqu'à la fin. Le rouge, alors je l'ai noté pour ne pas dire de bêtises, oui, le rouge parlait de dynamisme, c'était, ça donnait la force. Et puis le jaune, c'était plus pour la réflexion et le côté zen de la sécurité de l'achat chez Prise Unique. Voilà.
Donc, tout est bien pensé. Hein.
Ah bah c'est tout est bien pensé, tout est lié. Vous allez voir le suivant. Là, c'est un petit jeu maintenant. Essayez de deviner aussi.
Ah, avec plaisir. Le suivant, on arrive à le deviner. Regarde. Ouais,
c'est quoi donc?
Alors ça,
on connaît forcément.
C'est un labyrinthe. Non, je peux.
Bah ouais, on dirait un petit labyrinthe.
Il y a cette notion.
On n'est pas loin de Courrèges, mais non.
On dirait des G, en fait, c'est ça.
Alors voilà, oui.
On dirait un QR code, mais avec de l'avance, pardon.
Absolument. Donc. Alors, on est en 1952, cette marque est créée par un monsieur qui va lui donner son nom, et qui est, vous allez voir, donc une grande maison de couture, non, toujours pas ? Je vous donne la réponse, alors il s'agit du logo de...
La
réponse est là, il n'y a pas de lettrage, c'est la maison
Cardin ?
Non, c'est Givenchy.
Givenchy.
Donc c'est Hubert de Givenchy qui crée sa maison de couture, et puis bon, bah, il veut une identité, parce qu'au départ c'était juste écrit Givenchy, et il s'est dit, bah non, moi j'aimerais bien aussi avoir une identité visuelle. Alors tout est très épuré, effectivement, et ça donne toujours ce symbolisme de la spirale et du renouvellement, et du côté actuel. Et il se tourne vers son beau-frère, qui s'appelle Louis Fontaine, et qui est donc le propriétaire de Prise Unique. Alors on s'est dit, tiens, et finalement, ils se sont peut-être un petit peu passé le mot pour dire, on va créer un truc qui va rester dans la tête des gens.
C'est une histoire de famille,
ça. Ouais, c'est une histoire de famille, ouais, voilà. Donc, allez, le logo suivant, je me suis un petit peu éloigné.
Ah, ça, c'est Clairefontaine,
non ? Non, c'est
pas Clairefontaine. L'Alsacienne.
Ça ressemble un peu à Clairefontaine.
Ah oui, donc,
bah, oui, mais
c'est une marque de biscuits.
Alors, c'est alimentaire, effectivement.
Des pâtes ?
Qui n'existent plus ? Pas du tout.
Mais par contre, la forme, ça fait un peu porte-monnaie de grand-mère.
Alors, la forme était. Mais tu as raison de le souligner, la forme est faite exprès. Ça rappelle la forme d'un pot de yaourt, parce que les pots de yaourt étaient en paraffine, pas du tout, dans les années 70.
C'est pas la laitière. Hein,
et c'est tiré d'un endroit qui existe vraiment. Et si vous regardez bien, il y a des petites fées là qui sont là.
Ça, oui, j'essaye, mais je trouve pas.
Toujours pas. Alors, on regarde la révélation.
La révélation suivante.
J'ai juste caché le nom, c'était la Rochauffée.
Ah oui, je m'en souviens pas.
Qui était à l'époque comme Yoplait ou Stenval, qui étaient des marques comme ça, qui ont effectivement mis en avant ce côté magique. Et si on regarde bien cette énergie, un peu comme une éolienne aujourd'hui, autour des deux petites fées comme ça. Et voilà, ce sont des logos qui ont marqué leur temps. On regarde le suivant.
Continue, allez, on joue.
L'espèce de soleil là.
Oui, c'est ça, voilà.
On joue.
C'est drôle.
Alors, ça a disparu aussi.
Ah non, mais il n'y a que des trucs qui ont disparu.
On
est beaucoup trop vieux.
C'est YR.
Alors, effectivement, ce sont les initiales YR, une marque qui existe toujours aujourd'hui.
Yaourt.
Ça fait un peu feuille.
Yves Rocher.
Bravo.
Bonne réponse de
Général.
Ça a bien évolué depuis.
Alors, maintenant, oui, c'est écrit Yves Rocher, parce qu'effectivement, on reprochait, mais si vous regardez bien, le Y peut se lire à la fois dans le.
On dirait un trèfle à quatre feuilles aussi.
Oui, tu peux le lire à la fois dans le noir et dans le blanc. Si tu regardes bien.
Ah ouais.
C'est bien fait.
On demandera après à Inès si elle les avait les marques.
Rien à voir avec Ferrero Rocher.
Alors le suivant, pareil, on est toujours dans l'énergie cinétique.
Ah, c'est Hallmark.
C'est Hallmark, bravo.
Bravo. Donc là, on a la résolution, peut-être. Il y a la résolution derrière.
La laine. Et puis
Nina Hallmark.
C'était donc le but de faire une pelote de laine qui était en mouvement, et ça crée une sorte de dynamisme. Donc c'est ça qui est.
Ça, je trouve.
Ah, mais
c'est un genre de, tout à fait.
Bien sûr, oui, il y a un côté très, très, très artistique.
Il y en a encore une ?
Une petite question, ça m'intéresse. Je vois, alors c'est peut-être je pinaille, je vois qu'il y a le real, le R, parfois il y a le C comme copyright, mais ça n'y est pas sur toutes les marques.
Absolument.
Est-ce qu'il y a une raison à ça sans vouloir te prendre de dépourvu?
Oui, non, non, tu as tout à fait raison. R, ça veut dire registered, ça veut dire que c'est enregistré au recueil au commerce d'une marque déposée. TM, c'est trademark, donc on peut en faire le commerce. Et C, c'est copyrighté, c'est-à-dire qu'il y a des droits et qu'on ne peut pas le reproduire.
D'accord. Mais toutes le mettent pas forcément, c'est ce que je constate.
Alors là, je ne suis pas sûr qu'elle répond, mais oui, ça dépend du domaine de l'utilisation.
Ça, c'est bon à savoir, ça c'est très intéressant. Il en reste,
mais évidemment.
Allez, continue.
J'allais pas vous laisser partir comme ça.
Ah, mais si, la vitamine C.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Alors là, ça fait référence à...
Ça, je sais.
Continent. Ah, tu sais. Oui,
c'est continent. Continent ou incontinent?
Mais non, c'est continent. Ce sont les magasins continent, effectivement, l'achat gagnant. Et voilà la révélation. Et alors le but, c'est français, évidemment, et ça a été ouvert dans plein de pays, en Chine, en Taïwan, et ça existe toujours au Portugal, a priori, si j'ai bien vu.
Je confirme, et ils ont rajouté un continente.
Avec un E au bout. Et là, c'est censé, après, c'est censé ici représenter un pompon de marin vu d'en haut.
Ah ouais, ouais. Oh, ah, les couleurs,
parce que
oui.
C'est l'idée de voyager dans
j'avais
plusieurs continents.
J'avais jamais vu ça.
Ah oui, compris, oui, ça fait
maintenant je le dis.
Ça fait un C et après le rond rouge a été remplacé par une planète pour faire symboliser encore plus cette idée de
planète. Mais comment ils ont fait rentrer le rond rouge dedans?
Il faut le dessécher.
En fait. Il y en a un dernier ou pas?
Oh, bon, on en a encore un petit peu si vous voulez.
Ah bon, on va tous les faire.
Non, allez, le dernier.
Allez, le dernier.
Nous sommes en 1969.
Ah, il y a comme un œil.
Et il y a cette idée de spirale qui est en mouvement, qui symbolise la force, mais on a en même temps le confort, le bien-être, c'est censé rassurer, et ça se mettrait possiblement en mouvement, et ça symbolise la corne d'abondance, c'est-à-dire l'abondance de biens. Alors, est-ce que vous l'avez?
C'est une banque?
C'est une banque, absolument.
Bah oui, forcément.
Alors, je dirais les Sociétés Générales, non?
Ouais, c'est la Société Générale,
ouais,
bravo
Alexandre. C'est pas la Caisse d'Épargne,
il n'y a pas les clients, voilà.
Non, parce que les couleurs, bon, c'est couleurs rouges et tout, j'en voyais pas d'autres
Ben oui, c'est ça. Et donc, vulgairement, non, mais dans le langage courant, on appelle ça ce logo Pasquier, qui est donc fait par Noël Pasquier, qui était peintre et qui est resté assez longtemps. Il y avait même des œuvres en 3D dans certaines agences parisiennes où on pouvait patienter, ça bougeait comme ça. Donc, il y avait un côté un peu hypnotique, mais c'était l'idée encore de ce cinétisme.
Mais c'est une banque qui nous surveille alors. Et puis, il y a le logo, le O et le C qui sont attachés.
Oui, ouais, c'est l'idée de mêler et puis d'être riche quand on est dans cette banque, parce que ça symbolise l'opulence.
Tu sais quoi, on va garder les autres, on va les faire la semaine prochaine.
Non, ça y est, mais j'avais terminé.
C'était fini.
On pouvait enchaîner. Alors, ben, je te proposais d'enchaîner directement vers le Solitube. On n'a pas le temps de ça parce que c'est lié à ça.
Allez,
alors, une petite dernière. Alors, on va juste écouter le Solitube.
Ah, c'est intéressant.
Voilà. On va passer directement au Solitube. C'est rétablir une chanson qui est restée un peu dans les annales et qui, des fois, on aimerait bien qu'elle soit restée. Donc, on va basculer directement sur la chanson avec mon cher Nicolas pour finir cette émission. Regardez, et Arnaud nous en dit un mot juste après. Il est allé nous chercher quelque chose.
Ah, j'ai cru que Nicolas allait chanter, en fait, comme tu l'as dit.
Regardez.
Monsieur le directeur, je serais heureuse que vous fassiez à nos amis les honneurs de notre banque.
Mais avec joie. Mais permettez que je vous présente d'abord notre personnel qui se tient toujours à votre disposition. Ce jeune cadre plein d'allant, espoir de notre maison. Notre caissier aux doigts de fée.
Les secrétaires, messagères d'aujourd'hui, ballerines de la machine, Amazon du téléphone. Dans l'utrine d'Iroutine, nous vous servons fort et vite.
Discrétion, protection, attention, nous sommes les gardiens.
Alors le cliché des mal-alpha avec les nanas.
À la fin de l'année, je vais faire un classement. Je pense que
il est pas mal.
Exceptionnel.
Alors, après, donc musique du grand François de Roubaix. Musique,
de Roubaix.
Et vous avez le 45 tours là, qui apparaît. Ma banque par cœur. Donc par cœur. Et il y a au bout d'un moment, tout le monde danse. Alors c'est une sorte de comédie musicale. On est en 1972 et le logo se met en mouvement dans la banque. Voilà, etc. C'était dingue quoi.
Pépite. Pépite intégrale.
Avec Timor aussi, il faudra que tu nous le ressortes un jour.
C'est magnifique.
Ah, il est génial.
Écoutez, on arrive malheureusement au terme de cette émission, il nous reste encore des petites choses à voir avec vous. on le fera la semaine prochaine. Je voulais absolument débriefer aussi, c'était la partie qui nous restait, mais on le fera plus calmement. Je voulais débriefer, évidemment, ces séries de spectacles qui ont lieu en ce moment dans toute la France. Voilà. Moi, c'est une artiste qui m'a accompagné quand j'étais gamin. Et de la voir remonter sur scène en pleine forme aujourd'hui, s'éclater, entourée d'une équipe remarquable qui a su lui offrir, je trouve, le spectacle qui lui convient, à la fois un spectacle nostalgique et moderne, et de la voir s'éclater sur scène. Elle était encore hier soir à Bruxelles et ça a été un carton plein à Bruxelles.
De jolis cœurs, voilà, des nouvelles chansons aussi, hein,
au Palais des Congrès et tout. On en reparlera plus en détail la semaine prochaine. Je vous dévoile cette photo que j'ai pu prendre, mais le concert de Alexandre. Alexandre qui est notre partenaire de tournage de ces concerts de Dorothée qui étaient absolument géniaux. Alexandre Sorin qui a fait un travail remarquable avec les directeurs artistiques de ce spectacle. On en reparlera. Je remercie d'ailleurs les spectateurs parce que moi j'avais pas pu avoir accès au merchandising parce que c'était saturé au Palais des Congrès et il y a des gens qui en coulisses en province m'ont permis de les avoir, donc ils m'ont rapporté ça, donc je les remercie. L'album qui est spécial pour la tournée de Dorothée, mais on en reparlera la semaine prochaine. Vous verrez des extraits du spectacle. Elle finit avec Bordeaux et avec Nantes, avec notre mon copain Nicolas Crozel qui nous fera un petit j'espère coucou de là-bas en accompagnant Bernard Minet. Je voudrais remercier évidemment notre ami Antoine Noël d'avoir été avec nous pour sa franchise et pour son automatisme à nous dire les choses telles qu'elles sont sur les plateaux de tournage.
De tournage.
Mais près lapsus intéressant.
Non, mais ça change comme discours.
Et merci beaucoup de cette authenticité, de cette
merci
franchise.
Merci à vous de m'avoir invité.
Je remercie aussi Inès. Qui est en régie, j'espère qu'elle est toujours là pour le magazine Decide qui nous a accompagnés et qu'on était ravis. Oui, je vais le montrer, mais attendez.
Là, je te fais signe.
Laissez-moi venir. Alors, merci à tout le monde. Merci à Nico aussi qui était en régie. Voilà, on en reparlera bientôt, mais le jeu de tarot Goldorak Experience mis en place par Nicolas Céron, je vais y arriver.
Prime Prod et Jérémy
Céron qui viendra nous en parler bientôt. Voilà, on reparlera de tout ça. C'est important. On arrive au terme de cette émission.
Et Rui aussi.
Et puis Rui, évidemment. Rui,
et alors le magazine que tu as là,
Escape Zone. On verra plus tard, mais c'est pas possible. Il faut qu'il y a...
C'est juste.
Le là, bon finir, il ne connaît pas.
Mon interview de Christophe Gans, en fait, pour Silent Hill, et notamment toute sa carrière, Craig Freeman, donc le réalisateur, pour le numéro 2 qui va sortir, ça c'est le numéro 1, c'est sur la pop culture et le cinéma.
Voilà. Escape Zone. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, cher Antoine, d'avoir été là. Merci évidemment à Rui et à Arnaud d'avoir été là. J'embrasse Lola
merci
qui
n'est pas
avec nous. Merci à tous. Les portes du club se referment et reviennent, je l'espère, très vite, dès la semaine prochaine. On vous embrasse très fort et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao.
Bye.